Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Menachot, page 96, Daf Tzadik Vav. Bonne écoute et bon limoud.
Mesukanhu, car je suis en danger. En effet, David Ameler avait été atteint de boulimie. Donc, ce qu'il a voulu dire, c'est puisque je suis en danger, vous pouvez non seulement me donner les pains qui ont été enlevés de la table du sanctuaire et qui sont destinés à la consommation, mais vous pouvez même me donner ce qui se trouve dans le sanctuaire. Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon ben Gemara pligé, et la discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, c'est concernant la traduction qui leur a été transmise oralement par leur maître. Les maîtres de Rabbi Yehuda lui ont enseigné que la farine a été sanctifiée par la mesure et le four sanctifie ce qui s'y trouve. Par conséquent, il faut fabriquer ces pains à l'intérieur de la cour du sanctuaire. Il faut aussi donc les fabriquer impérativement le Shabbat. Tandis que les maîtres de Rabbi Shimon lui ont enseigné que la farine n'est pas sanctifiée par la mesure et le four ne sanctifie pas les pains qui s'y trouvent. Par conséquent, il est possible de les fabriquer à l'extérieur de la cour du sanctuaire. Il faudra impérativement les fabriquer avant le Shabbat. Des Kanami, on peut effectivement déduire que c'est cela leur sujet de discussion, ce qui concerne la tradition. Des Katané, car il est enseigné, à la suite, Rabbi Shimon Omer, le Olam Heveragil Omar, toujours est l'habitude de dire, Shtei Alechem Velechem Apanim, la fabrication des deux pains offerts à Shavuot et des pains que l'on place à l'intérieur du sanctuaire, Ksherot Bazara, est valable lorsqu'ils sont fabriqués dans la cour du sanctuaire, ou Ksherot Abed Pagi, mais ils seront aussi valables lorsqu'ils sont cuits dans l'enceinte qui se trouve à l'extérieur de la cour du sanctuaire. Alors, puisqu'il s'exprime de cette manière, il veut en fait transmettre un enseignement qui lui a été transmis par ses maîtres. C'est pour cela qu'il dit « ait l'habitude de dire », etc. Et donc, ce n'est pas la pasouk qui l'a déduit. La Gemara conclut « Shema Amina », effectivement, c'est une bonne preuve. Nous avons fini ici le shiur de Masechet Menachot Daf Tzadehe. Nous commençons le shiur de Masechet Menachot Daf Tzadevav à la quatrième ligne du haut de la page à la Mishnah. Alors la Mishnah dit « Chavite Kohen Gadol » en ce qui concerne l'offrande journalière du Kohen Gadol de pains spéciaux qui sont d'abord ébouillantés puis frits dans l'huile. « Lishatan ve'arichatan ve'afiatan bifnim » leur pétrissage, leur formation et leur cuisson doit s'effectuer à l'intérieur de la cour du sanctuaire. « Ve'dochot et Shabbat » et ces actions repoussent le Shabbat, il est donc permis de les faire le Shabbat. Par contre, « Trinatan » le fait de moudre le blé pour obtenir la farine « ve'arkadatan » et le tamisage de la farine « enodochet à Shabbat » ne repousse pas le Shabbat. Ces actions devront donc être effectuées avant le Shabbat. « Klal Amar Rabbi Akiva » Rabbi Akiva a énoncé une règle générale. « Kol melacha shefchar lasotah me'erev Shabbat » toute action qu'il est possible de faire avant le Shabbat « enodochet à Shabbat » ne repousse pas le Shabbat. Comme le fait de moudre le blé et le tamisage. « Ve'she'ir sharla lasotah me'erev Shabbat » mais les actions qu'il est impossible de faire avant le Shabbat, comme le pétrissage de la pâte de cette offrande, car selon tout le monde, la mesure employée pour mesurer la farine utilisée par le Kohen Gadol a été sanctifiée. Il s'agit d'une mesure d'un demi-saron, comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, qui elle n'est utilisée que pour le Kohen Gadol. Cette mesure a donc été enduite avec de l'huile d'onction et elle a été sanctifiée. Ce qui a été contenu a donc la sainteté spéciale du sacrifice et sera invalidé par le passage de la nuit. Forcément, si cette offrande doit être offerte le Shabbat, Docha et Shabbat, donc les actions pour la fabriquer, repousseront le Shabbat. Il sera donc permis de pétrir et de cuire la pâte pour cette offrande. Kol hamnachot yesh ba'en ma'aseh kli bifnim. Pour toutes les offrandes à base de farine, il y a une action qui est effectué dans un ustensile de service à l'intérieur de la cour du sanctuaire, car pour toutes les offrandes, il faut ajouter de l'huile qui a été mesurée dans l'ustensile qui sert à mesurer les liquides, qui, elle, est sanctifiée, donc l'huile qui a été contenue à la sainteté du sacrifice. Forcément, le pétrissage des offrandes devra être effectué à l'intérieur de la cour du sanctuaire, et ce, dans un ustensile de service. Ve'en bahen ma'asek libachutz, et il n'y a pas d'action qui est effectué dans un ustensile de service à l'extérieur de la cour du sanctuaire, car comme nous l'avons dit, le pétrissage doit être effectué impérativement dans la cour du sanctuaire, étant donné qu'on y ajoute de l'huile qui est sanctifiée. Shtialechem, les deux pains spéciaux offerts par le public à l'occasion de Shavuot, Orkan Shiva Tfachim, leur longueur est 7 Tfachim, soit légèrement plus que 67 cm, de Rochban Arba Tfachim, et leur largeur est de 4 Tfachim, soit un peu plus que 38 cm. Bekarnoteha Arba Etzbaot, et leurs coins ou leurs cornes sont des espèces de saillies qui dépassent aux quatre coins de ces pains, ont une hauteur de 4 doigts, soit environ 9,6 cm. Lechem Apanim, les pains spéciaux que l'on place chaque semaine sur la table à l'intérieur du sanctuaire, Okan Asara Tfachim, leur longueur est de 10 Tfachim, soit environ 96 cm, Verochban Chamisha Tfachim, et leur largeur est 5 Tfachim, soit environ 48 cm. Vekarnotav, Sheva Etzbaot, et leurs cornes, donc ces espèces de morceaux de pâte qui dépassent aux quatre coins, ont une longueur de 7 doigts, soit un peu moins que 17 cm. Rabbi Yehuda Omer, Shelotite, afin que tu ne te trompes pas, je te présente un signe. Zadad Yahaz. Zadad, donc les lettres Zain, Dalet, Dalet, correspondent aux valeurs numériques de 7, 4 et 4. Il s'agit des mesures pour les deux pains spéciaux offerts à Shavuot. Donc la longueur de 7 Tfachim, largeur de 4 Tfachim et les cornes de 4 doigts. Et la valeur numérique des lettres Yud, He, Zain font 10, 5 et 7. Il s'agit des mesures pour les pains que l'on place sur la table dans le sanctuaire. Donc 10 Tfachim de longueur, 5 Tfachim de largeur et les cornes 7 doigts. Voir le Tiferet Israël qui donne une signification à ce signe. Benzoma Omer, lorsque le Passouk dit dans Shemot Kafé concernant les pains que l'on place chaque semaine sur la table dans le sanctuaire, Venatata al Hashulchan Lechem Panim Lefanai Tamid, et tu mettras sur la table des pains qui s'appellent Lechem Panim devant moi tout le temps, constamment. Alors l'expression Lechem Panim veut dire Sheyulo Panim, ce pain doit avoir des faces. Il s'agit donc soit des deux parois, soit de ses cornes qui dépassent aux quatre coins. En effet, comme nous l'avons expliqué au début de ce chapitre, le fait que le Passouk appelle ces pains Lechem Apanim veut dire qu'il y a plusieurs facettes à ces pains. Alors la Mishnah explique, Hashulchan Orko Yud, la longueur de cette table est de 10 Tfachim, soit environ 96 cm, Verochbo Chamisha, tandis que sa largeur est de 5 Tfachim, soit 48 cm. Lechem Apanim, les pains spéciaux que l'on place sur cette table Orko Yud, ont une longueur de 10 Tfachim, Verochbo Chamisha, et ont une largeur de 5 Tfachim. Et étant donné qu'il y a deux rangées de pains, Noten Orko Keneged Rochbo Sheshulchan, il doit placer la longueur de ses pains dans le sens de la largeur de la table, Vekofel Tfachaim Umertza Mikan ou Tfachaim Umertza Mikan, et il plie une longueur de 2 Tfachim et demi de ce côté et de 2 Tfachim et demi de l'autre côté, donc aux deux extrémités des pains qui dépassent de la table, Mimtza Orko Memale Rochbo Sheshulchan, il se trouve donc que la longueur de ses pains remplit toute la largeur de la table. Divrei Rabbi Yehuda, ce sont les paroles de Rabbi Yehuda, qui pense que les mesures de cette table correspondent à des coudées de 5 tfachim. Donc la longueur de la table est de 2 coudées, comme le Passouk le dit dans Shemot Café. Il s'agit donc de 10 tfachim. Sa largeur est de 1 coudée, donc 5 tfachim. Rabbi Meir Omer, Hashulchan Orko Yudbet, la longueur de la table est de 12 tfachim, soit légèrement plus que 115 cm. Ve Rochbo Shesh, et sa largeur est de 6 tfachim, soit environ 57 cm et demi, car selon lui, les mesures de la table correspondent à des coudées de 6 tfachim. Lechem Apanim, les pains spéciaux que l'on place sur cette table au Koyud, ont une longueur de 10 tfachim ve Rochbohe, et une largeur de 5 tfachim. Noten Orko Keneged Rochbo Sheshulchan, il place la longueur de ses pains dans le sens de la largeur de la table, donc il dépasse de chaque côté, Kofel Tfachai Mikan ou Tfachai Mikan, et il plie une longueur de 2 Tfachim de ce côté et une longueur de 2 Tfachim de l'autre côté aux extrémités qui dépassent de la table. Ainsi, les pains correspondent à la largeur de la table, étant donné qu'il y a deux rangées de pains qui font en tout 10 Tfachim, Utfachaim Revach Baimtsa, il reste donc un espace de 2 Tfach entre les deux rangées de pains, Kedesh Etehe Aruach Menachevet Baem, afin que l'air frais puisse circuler entre les pains, afin qu'ils ne moisissent pas. Selon l'avis qui dit que ces pains avait la forme d'une boîte ébréchée, donc un fond plat et deux parois verticales. Ce passage se comprend facilement. Selon l'avis qui dit que les pains avaient la forme d'un bateau qui tangue, c'est-à-dire ils avaient la forme d'un losange plié au milieu, de manière à ce que les deux parois étaient penchées, la Mishnah veut dire qu'il faisait correspondre la taille des pains à la taille de la table, de manière à ce que la longueur maximale de ce pain était 5 tfachim selon Rabbi Houda et 6 tfachim selon Rabbi Meir. Le reste était donc plié, de manière à ce que la hauteur totale de ce pain ne dépassait pas de 2 tfachim et demi selon Rabbi Houda et 2 tfachim selon Rabbi Meir. Abba Shaul Omer, dans cet espace de 2 tfachim qu'il y avait entre les deux rangées de pain selon l'opinion de Rabbi Meir, Sham Hayunotnin Shne Bezichel Levona Shel Lechem Apanim, il plaçait là-bas les deux coupelles contenant le galbanum qui accompagnait ses pains. Amroulo, les chachamim lui ont dit, Beharek va Nehemar, pourtant, le pasouk dit dans Vaikra Kavdalet, concernant, justement, ces pains qui étaient placés dans la table dans le sanctuaire, Venatata alahma arechet levonazaka, et tu placeras sur chaque rangée de pain une coupelle de galbanum. Forcément, ces coupelles se trouvaient sur les pains et non pas à côté. Amar lahem, Abba Shaul leur a répondu, Harek va Nehemar, voici qu'il est dit ailleurs dans Bamid Barbet, concernant la disposition des tribus dans le désert, en concernant le groupe dont la tribu essentielle était la tribu de Ephraïm, le pasouk dit « Ve'alav Maté Menaché ». Littéralement, le pasouk voudrait dire donc « Et sur lui, sur cette tribu, il y a la tribu de Menaché ». Forcément, cette tribu ne se trouvait pas sur la tribu de Ephraïm. Forcément, le terme de « Ve'alav » voudrait dire « Et à côté ou avec lui, donc avec cette tribu de Ephraïm, il y avait aussi la tribu de Menaché ». Donc finalement, l'expression « al » ne veut pas forcément dire « sur », mais plutôt « avec » ou « à côté ». En ce qui concerne le galbanum, nous pouvons dire donc la même chose, que les coupelles étaient placées sur la table à côté des rangées de pain et non pas dessus. « Be'arba'as nifin shel zahav ayusham » Il y avait là-bas quatre montants d'or, donc deux montants pour chacune des rangées, « mefutsalin merashehen » qui avaient des saillies à leurs extrémités, là où il fallait placer les barres qui soutenaient les pains, Shehayu somchin bahem shnaim le sederze ou shnaim le sederze, et qui soutenaient les pains, donc qui les maintenaient en place, il y en avait deux pour cette rangée et deux pour l'autre rangée. Ve kafret kanim, il y avait là-bas 28 espèces de branches de roseau, kechatsi kane chalul, et qui avaient la forme d'un demi-roseau creux, donc comme un roseau qui aurait été fendu. Arba asar le sederze, veyudalet le sederze. On employait donc 14 pour cette rangée de pain et 14 pour l'autre rangée de pain. La Gemara expliquera leur disposition. L'osido kanim velo netilatam docha et ashabat. Ni le fait d'arranger ces barres, ni le fait de les enlever pour retirer les pains ne repousse le Shabbat. Il est donc interdit de faire ces actions le Shabbat, car cela ressemblerait un peu à construire ou monter un meuble. Et là, plutôt, Nichnas Merev Shabbat, le Kohen rentre avant Shabbat dans le sanctuaire, Veshomto, et il retire ses barres, Venotno, le Orko Shel Shulchan, et il les place le long de la table. Ainsi, il pouvait enlever et remettre des nouveaux pains. Après le Shabbat, il replaçait les barres pour soutenir les pains. Kol Hakelim Shayub Amigdash, tous les ustensiles qui se trouvaient dans le sanctuaire, Orkan le Orko Shel Bait, leur longueur était placée dans le sens de la longueur du sanctuaire. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit « Kol ha-menachot yesh bahen ma'aseh klim bifnim » Pour toutes les offrandes à base de farine, il y a une action, donc le pétrissage, qui est effectué dans un ustensile de service, et ce, à l'intérieur de la cour du sanctuaire. La Gemara dit là-dessus « Shalou et Rebi zuminaim » Les élèves ont demandé à Rebi « D'où savons-nous cela ?» Que pour toutes les offrandes à base de farine, il faut une action dans un ustensile de service à l'intérieur de la cour du sanctuaire. Amar Lahem, il leur a dit, il leur a répondu, Haré Omer, voici que le pasouk dit dans Yecheskel Membav, c'est une prophétie concernant le Bet Amigdash, le sanctuaire qui sera construit dans le futur. Le pasouk dit, Vayomer Elai, et Hachem m'a dit, Ze Amakom, Asher Yevash Lusham Akohanim, nous lisons, selon la note marginale, Et Ha'asham Bet Achatat, Asher Yofu Et Amincha, Levilti, Hotsi El Hechatzer Achitzona, etc. Voici l'endroit, donc, où les Kohanim cuiront la viande du Korban Hacham et du Korban Khatat, et à cet endroit aussi, ils cuiront l'offrande à base de farine afin de ne pas la faire sortir à la cour extérieure, donc à l'extérieur de la cour du sanctuaire. Nous voyons que le passouk juxtapose ici l'offrande à base de farine et la viande des sacrifices. Nous concluons donc Mincha Dumia de Hasham Vechatat. L'offrande à base de farine ressemble à la viande du Korban Hasham et du Korban Chatat. Ma Hasham Vechatat, de même que pour la viande du Korban Hasham et du Korban Chatat Tounin Kli, il nécessite un ustensile de service, car étant donné qu'on les cuit forcément, ils sont cuits dans un ustensile, et ce forcément aussi dans la cour du sanctuaire, comme le Passouk le dit clairement, qu'il ne faut pas les faire sortir à l'extérieur, à la cour extérieure. Af Mincha, Nami, ainsi aussi pour l'offrande à base de farine, Tounakli, elle nécessite un ustensile, donc un ustensile de service, et il faudra la fabriquer à l'intérieur de la cour du sanctuaire, comme la cuisson du Korban Khatat et du Korban Hasham. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit, Hashulchan Orko Asara, la longueur de la table est de 10 tfachim, selon l'opinion de Rabbi Yehuda. La Gemara dit là-dessus, Amar Rabbi Yochanan, les divrei Haomer, selon l'opinion qui dit, Tfachaim Umertza Kofel, qu'il faut plier une longueur de 2 tefach et demi aux extrémités des pains. Nimtza Shulchan Mekadesh Chamisha Asar Tfachim Lemala, il se trouve donc que cette table qui se trouve dans la cour du sanctuaire a un pouvoir de sanctification jusqu'à une hauteur de 15 tefach. En effet, étant donné qu'il y a 2 rangées de 6 pains, chacun des pains a une hauteur de 2 tefach et demi, donc 2 et demi fois 6 font 15. Les divrei Haomer Tfachaim Kofel, selon l'avis qui dit, donc selon Rabbi Meir qui dit que l'on plie que 2 tfachim aux extrémités des pains, car la table est plus large, Nimtza Shulchan Mekadesh Yudbet Tfachim Lemala, il se trouve que cette table a un pouvoir de sanctification jusqu'à une hauteur de 12 tefach, étant donné que, comme nous l'avons dit, il y a 2 rangées de 6 pains, multipliées par 2 tefach, il y a donc une hauteur de 12 tefach. La Gemara demande, Vehaï Kakanim, pourtant il y a ces espèces de barres qui ont la forme d'un roseau, qui se trouve entre chacun des pains. Finalement, la hauteur est supérieure à la mesure donnée par Rabbi Yochanan. La Gemara répond, Kanim shekue mashka lehu. Ces barres ayant la forme d'un roseau étaient renfoncées dans le pain. Donc en fait, lorsqu'il fabriquait les pains, il préparait des espèces de renfoncements à l'endroit où devaient être placées ces barres. Ainsi, la hauteur ne dépasse pas la mesure présentée par Rabbi Yochanan. La Gemara demande, Mataima, pourquoi est-ce que l'on place ces barres? Mishum yapujelechem, c'est pour éviter que les pains ne moisissent. Sauf, finalement, si ces barres sont enfoncées dans le pain, comme nous l'avons expliqué, kameyapachlechem, les pains vont quand même moisir. Autrement dit, ils ne servent à rien. Alagma répond de Magbah le Pourta, ils le surélèvent quand même un petit peu, c'est-à-dire ils ne sont pas entièrement enfoncés dans le pain. Il y a donc un petit espace entre les pains, l'air peut circuler, et donc les pains ne moisiront pas. Alagma demande Vehaika Haou Pourta, pourtant il y a ce petit peu, ce petit espace qui existe entre les pains, qui augmente la hauteur totale de ce qui se trouve sur la table. Alagma répond Kivan de l'eau avait effaré, puisque la somme de ces espaces qui existent entre les pains n'atteint pas la largeur d'un tefar, soit environ 9,6 cm, l'Ochashivle, Rabbi Yochanan, ne l'a pas compté. C'est pour cela qu'il dit que selon Rabbi Yehuda, la hauteur totale de la table sera 15 tfachim, et c'est jusqu'à cette hauteur que la table a le pouvoir de sanctification, tandis que selon Rabbi Meir, les pains sur la table atteignent la hauteur de 12 tfachim, et c'est jusque-là que la table a le pouvoir de sanctification. La Gemara demande, Vaika Bezichim, pourtant, il y a les coupelles contenant le galbanum qui se trouvent sur les pains, qui augmentent donc la hauteur totale de ce qui se trouve sur la table. Le pouvoir de sanctification de la table va dépasser la mesure donnée par Rabbi Yochanan. Il est vrai que le galbanum est sanctifié par le fait d'avoir été contenu dans les coupelles et non pas par le fait d'avoir été posé sur la table. Cependant, comme l'explique le Migdash David dans Siman Kavbet Sivkatan Gimel, puisque, comme il est expliqué plus haut d'Avzaïn Amoudbet et d'Afret, qu'en fait, les pains que l'on place sur la table et le galbanum forment une seule offrande, et ce qui est offert sur l'autel, le galbanum, remplace ce qui est offert sur l'autel des offrandes à base de farine. Donc, le fait de retirer le galbanum pour l'offrir sur l'autel remplace l'akmitsa, le prélèvement qui est effectué sur l'offrande à base de farine. Il s'agit donc d'un prélèvement sur les pains. Il faut forcément qu'il soit contenu dans le même ustensile. Donc forcément, même si le galbanum est contenu dans les coupelles, nous devons considérer qu'il est posé sur la table en même temps que les pains, et en quelque sorte, le pouvoir de sanctification de la table inclut aussi les coupelles de galbanum. Donc si elle dépasse cette hauteur fixée par Rabbi Yochanan, il se trouve que le pouvoir de sanctification de la table est plus grand. Voir aussi le chidouché à grise sur place est plus haut d'Af Pesayin Amudbet. L'agma répond, Begavayu de lechem avuyatve, les coupelles étaient posées dans le pain, ou le behade lechem avukaime, et ces coupelles arrivaient donc à la hauteur des pains, elles ne dépassaient pas les parois du pain supérieur. Donc finalement, le pouvoir de sanctification de la table reste selon les mesures fixées par Rabbi Yochanan. L'agmar demande Vaika Kranot, pourtant il y a les espèces de cornes qui dépassent des pains, qui comme nous l'avons vu dans la Mishnah, ont une longueur de 7 doigts. L'agmar répond, Karnot legaveh delechem kayif lehu, ces cornes sont pliées vers l'intérieur du pain, elles ne sont donc pas verticales, mais plutôt elles sont horizontales. Velechem alayhu nachleh, et le pain est posé dessus, c'est-à-dire sur la largeur des parois et sur ces cornes qui dépassent des extrémités des parois.
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous tournons la page à Daf Tzadeh Vav Amud Bet. L'Agmar demande Vahika Misgarto. Pourtant, il y a le cadre qui se trouve apparemment sur la table et qui a une hauteur d'un tefar. Donc, il faut majorer cette mesure fixée par Rabbi Yochanan de un tefar. L'agma répond, Keman de Amar Misgarto le Mataita. Rabbi Yochanan dit cela selon l'opinion qui dit que le cadre dont parle le Pasuk se trouvait en dessous, c'est-à-dire c'était un espèce de cadre qui reliait les pieds de la table, et sur ce cadre était posée la planche qui formait la table. Donc finalement, il n'y a pas à ajouter sur la hauteur fixée par Rabbi Yochanan. Ou le man de Amar Misgarto le Malaita, et selon l'avis qui dit que le cadre se trouvait au-dessus de la table, il s'agissait donc d'un rebord d'un tefar de hauteur. Pirkudei hava mefarkeda, ce cadre ou ce rebord ne montait pas verticalement et donc empiétrait sur la surface de la table, mais plutôt ce cadre qui avait un tefar de hauteur était penché vers l'extérieur. Donc c'est un espèce de rebord qui élargissait la table. Velechem begaveh de shulchan avayativ, et le pain lui-même était posé à l'intérieur de la table. Donc ce cadre ne gênait pas. Comme l'explique le Rachash, peut-être qu'à la base du pain inférieur était formé de manière à avoir légèrement moins que 5 tfachim, car le rebord empiétait un peu sur la table, mais le reste du pain avait une largeur de 5 tfachim, comme nous l'avons vu dans la Mishnah. Quel est Tania ? Et ce, comme il est enseigné dans une Braïta, où nous voyons qu'il existe effectivement une discussion à ce sujet, Rabbi Yossi Omer, Lo Hayasham Snifim, il n'y avait pas là-bas de montant des deux côtés de la table pour soutenir les pains. Et là, plutôt, Misgarto shel shulchan ma'amedet et alechem, c'est le cadre de la table qui se trouvait au-dessus, qui soutenait le pain, c'est-à-dire le pain inférieur, et cela suffisait pour que tous les pains soient maintenus. Selon lui, comme le soulève Tosfot, il faut comprendre que veut dire le pasuk lorsqu'il parle de ksotav, qu'en général nous traduisons par ces fameux montants, et comment aussi étaient soutenus les barres qui soutenaient les pains. Cependant, le Sfat Emet propose que selon Rabbi aussi, ces montants étaient éloignés de la table et les barres qui soutenaient les pains étaient donc plus longues, mais en tout cas, ce n'est pas les montants qui soutenaient les pains, mais selon lui, ils se maintenaient tout seuls. Amroulo, les Chachamim lui ont dit, Misgeret le Mataita, ce cadre était en dessous de la table, c'était donc le cadre qui reliait les pieds de la table. Nous voyons donc clairement qu'il y a une discussion à ce sujet, à savoir si ce cadre se trouvait en dessous de la table ou sur la table. Voir aussi le Yashar Vetov. Amar Rabbi Yochanan, le divrei haomer misgarto le mataita, selon l'avis qui dit que le cadre de la table se trouvait en dessous, donc ce cadre reliait les pieds, la planche qui formait le dessus de la table était entièrement lisse, elle pouvait se démonter, on pouvait même la retourner. Du fait que, comme nous le verrons par la suite, cette table qui se trouvait dans le sanctuaire était susceptible de devenir impure, nous pouvons déduire de là que tavla hamita pechet, une planche qui peut se retourner et qui est utilisable des deux côtés, Temea, est susceptible de devenir impur. Et cela, bien qu'un ustensile en bois qui est plat et qui ne peut pas contenir n'est pas susceptible de devenir impur, Cependant, ici, il s'agit d'une table qui est large. Donc, même si elle n'a pas de rebord, nous considérons qu'elle a la possibilité de contenir ce qu'on y met. Et c'est pour cela, donc, que Minatora, cette plaque est susceptible de devenir impure. Et dit vrai, Haomer Misgarto le Malaita, mais selon l'avis qui dit que le cadre se trouvait au-dessus de la table, donc finalement elle avait un rebord, Tavla Mitapechet, en ce qui concerne une plaque lisse que l'on peut utiliser des deux côtés, Tivelar, tu peux te poser la question, est-ce qu'elle est susceptible de devenir impure, Minatora, étant donné qu'elle peut contenir même son rebord ou non? Alors, Gmar demande, Miklal de Shulchan Bar Kibule Tumahu, nous pouvons donc déduire de ces paroles de Rabbi Yochanan que la table qui se trouve dans le sanctuaire est susceptible de devenir impure. Klietz ha'asul enachatu, il s'agit d'un ustensile de bois destiné à rester tout le temps où on l'a placé. Vechol klietz ha'asul lenachat, et tout ustensile en bois qui est destiné à rester sur place, donc à ne pas être déplacé, en mekabel tuma, n'est pas susceptible de devenir impur. La Gemara demande Maïtama pourquoi, quelle est la raison? La Gemara répond, Dumia de sak bainan, il faut pour qu'un ustensile en bois soit susceptible de devenir impur, qu'il ressemble au sac. Car le pasouk dans Vaikra Yudalef, qui énumère les différents ustensiles fabriqués avec des matériaux autres que le métal, qui sont susceptibles de devenir impurs, il mentionne aussi le sac. De là, nous apprenons que pour qu'un ustensile soit susceptible de devenir impur, il doit ressembler au sac. Par conséquent, nous disons, ma sac, mitaltel, maleverekan, de même que le sac est transportable, soit lorsqu'il est plein, soit lorsqu'il est vide. Afkol, ainsi, tout ustensile sera susceptible de devenir impur, à la condition que mitaltel malebrekan, qu'il soit susceptible d'être transporté, soit lorsqu'il est plein, soit lorsqu'il est vide. Donc, étant donné que la table n'est pas destinée à être déplacée, elle n'est pas susceptible de devenir impure. L'Agma répond, Shulchan nami mitaltel malebrekan, cette table qui se trouve dans le sanctuaire est aussi transportée, soit lorsqu'elle est pleine, soit lorsqu'elle est vide. Kedé Resh Lakish, et ce comme le dit Resh Lakish, Damar Resh Lakish, Maï Dirtiv, que veut dire le pasouk dans Vaikra Kavdalet al Hashulchan Hataor? Et il posera les pains sur la table pure. Lorsque le pasouk précise Taor que la table doit être pure, Miklal Deikatame, nous pouvons déduire de là qu'il existe une table impure, donc que cette table qui se trouve dans le sanctuaire est susceptible de devenir impure. Pourtant, comme nous l'avons dit précédemment, il s'agit d'un ustensile qui est destiné à rester sur place. Donc, il ne devrait pas être susceptible de devenir impur. Et là, plutôt, Melamed, cela nous enseigne, chez Magbin, Otto Leoler Galim, on soulève la table pour la montrer à ceux qui viennent en pèlerinage à l'occasion des fêtes, ou Marin Bo Lechem, on leur montre le pain qui s'y trouve, Veomrim Lahem. Et on leur dit, donc les Kohanim leur disent, Re'u Chibatchem Lifne Amakom, regardez comme vous êtes chers aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, que devrait Rabbi Yoshua Ben Levi, et ce comme les paroles de Rabbi Yoshua ben Levi. D'Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Nes Gadol Naase Belechem Apanim, il y avait un grand miracle qui se faisait pour ces pains qu'on le place à l'intérieur du sanctuaire, Siloko Kosiduro, qu'il était enlevé de la table au bout d'une semaine dans le même état qu'il était lorsqu'on l'y avait placé. C'est-à-dire, comme l'explique le Tosfot, cet enseignement suit l'opinion qui pense que la cuisson de ces pains repousse le Shabbat. On cuisait donc ces pains le Shabbat, et on les plaçait sur la table alors qu'ils étaient encore brûlants. Pendant toute la semaine, la fumée se dégageait et donc on pouvait voir que les pains restaient chauds pendant toute la semaine. Chez Nehemar, car le pasouk dit dans Shmuel Aleph Perekaf Aleph, c'est lorsque David Ameler se sauvait de Shaoul Ameler et il s'est présenté à la ville de Nov où se trouvait le sanctuaire à l'époque et il a exigé qu'on lui donne du pain à manger. Le Kohen Gadol lui a dit qu'il n'y avait que du Lechem Apanim. Donc, le pasouk dit que le Kohen Gadol lui a donné du Lechem Apanim parce qu'il n'y avait que ce pain qui avait été enlevé le jour même de la table sur le sanctuaire, la Soum Lechem Chom Biyom Ilakro, pour mettre du pain chaud le jour où on avait enlevé les pains de la semaine précédente. Dans notre contexte, Rabbi Yoshua Ben Levi interprète le pasouk de la manière suivante, pour mettre des nouveaux pains sur la table et qui étaient chauds le jour où on les enlevait. De là, il apprend donc que les pains restaient chauds toute la semaine, et c'est ce miracle qu'on montrait aux pèlerins. En tout cas, nous voyons que cette table était déplacée, c'est pour cela qu'elle était susceptible de devenir impure. Alors la Gemara demande, Vetipuk le mishum tzipui. De toute façon, la table aurait dû être susceptible de devenir impure à cause de l'or qui la recouvre. car en fait, cette table était en bois recouverte d'or. Le fait qu'elle était recouverte d'or, on aurait dû considérer qu'il s'agit d'un ustensile de métal, qui de toute façon est susceptible de devenir impur, même si il n'est pas destiné à être déplacé. Milotnan n'est-il pas enseigné dans une Mishnah dans Maseret Kelim Perekav Bet Mishnah Aleph, Hashulchan Ve'adul Peki Chez Nifratu, une table ou une espèce de chaise pliante dont le siège est en cuir, et qui est utilisée parfois comme table, Chez Nifratu, dont la surface sur laquelle on pose les aliments ou la vaisselle s'est abîmée, Oshechipan Beshaish, ou bien s'il les a recouverts de marbre. Ainsi, ils sont considérés désormais comme étant des ustensiles de pierre qui ne sont pas susceptibles de devenir impurs. Beshier Bahen Makom Hanachat Kosot, mais il a laissé un endroit qui n'a pas été brisé ou qui n'a pas été recouvert de marbre suffisant pour pouvoir y poser des verres. Tmein, ils sont toujours susceptibles de devenir impurs. Rabbi Yehuda Omer, Makom Hanachat Ratichot, pour qu'ils soient toujours susceptibles de devenir impurs, il faut qu'il y ait un endroit qui n'a pas été brisé ou pas recouvert de marbre, suffisamment grand pour pouvoir y poser des morceaux d'aliments. En tout cas, nous pouvons déduire de la braïta, Shier, s'il a laissé un endroit qui n'a pas été recouvert de marbre, in oui, il est susceptible de devenir impur, lo Shier, mais s'il n'a pas laissé d'endroit pour pouvoir y poser des aliments qui n'a pas été recouvert, donc ils ont entièrement été recouverts de marbre, lo non, ils ne sont pas susceptibles de devenir impurs. Nous voyons donc qu'un ustensile en bois qui a été recouvert avec un autre matériau, il reçoit le statut du matériau qui le recouvre. Donc, s'il est recouvert de marbre, il reçoit le statut d'ustensile de pierre qui n'est pas susceptible de devenir impur. S'il est recouvert de métal, il aura le statut d'un ustensile de métal qui est susceptible de devenir impur. Vechitema, ici tu veux me répondre, Kan Betzipuyomed, ici, dans la Mishnah, il s'agit d'une situation où le matériau qui recouvre l'ustensile en question sont fixés à cet ustensile, et c'est pour cela donc que l'ustensile reçoit le statut de ce qui le recouvre. Mais Kan, ici, en ce qui concerne la table qui se trouve dans le sanctuaire, Betzipui Sheino Omed, il s'agit d'une situation où ce qui le recouvre n'est pas fixé à la table, et c'est pourquoi cette table ne reçoit pas le statut d'ustensile de métal, mais garde le statut d'ustensile de bois. Alors c'est impossible, car Veha Ba'amine Resh Lakish mais Rabbi Yochanan, pourtant Resh Lakish a posé la question suivante à Rabbi Yochanan, lorsque nous voyons dans la Mishnah que lorsque l'ustensile est recouvert avec un autre matériau, il reçoit le statut de ce qui le recouvre, Betzipui Omed ou Betzipui Sheno Omed, est-ce que la Mishnah parle uniquement d'une situation où ce qui le recouvre est fixé à l'ustensile, ou même si ce qui le recouvre n'y est pas fixé? Autre question qu'il lui a posée, Beshechipa et Levas Bezin, s'agit-il d'une situation où il a recouvert même les rebords de cet ustensile, de cette table?
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi, quotidiennement en vidéo.